Bonjour, bonjour. Petit générique aujourd'hui. On a la parole tout de suite. Donc bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, pour cette émission Livres et Amis du mercredi 17 mai. Eh bien, Livres et Amis aujourd'hui avec Françoise, Nadine, Dominique et Louise à la technique. Il paraît que pour ce week-end de l'Ascension, il va pleuvoir à Marseille. Alors tant mieux pour nos plantes, nos rivières, nos réserves d'eau. Et profitons-en pour aller dans les musées de la ville. Il y a plein d'expos qui commencent. Barvalo, au Mucem. Barvalo, c'est Rome, Sinti, Gitan, voyageurs d'Europe. Donc une plongée dans l'univers des Romani d'Europe. Baïa à la vieille charité. Baïa, c'est une héroïne algérienne de l'art moderne. Et Louis Ponce à Cantigny, l'exposition Louis Ponce, je ne l'ai pas encore vue, mais j'aime beaucoup son sous-titre. Entrez donc, mais je vous préviens, ma maison n'a pas de toit et le ciel est absent. Alors, ma maison n'a pas de toit et le ciel est absent, c'est une phrase qui pourrait presque nous servir aussi d'introduction pour notre livre du jour. Notre livre du jour, c'est La Ballade de Gueule Tranchée de Glenn Taylor. C'est un roman américain. Glenn Taylor est un écrivain donc états-unien, quarantenaire. Il est professeur à l'université de Morgantown en Virginie-Occidentale, tout à fait dans le nord de la Virginie-Occidentale. C'est un campus universitaire récent, puisque sinon il y avait juste le campus de Charleston, qui est au contraire au sud-ouest de la Virginie-Occidentale. Et donc là, on est pas très loin de Pittsburgh, on est dans les Appalaches, on n'est pas très loin non plus des champs de bataille de la guerre de sécession, Gettysburg, Harrisburg, etc. C'est un peu l'Amérique profonde, mais l'Amérique profonde des bois, des collines, des forêts, des mines, les mines de charbon. Donc, notre auteur, Glenn Taylor, qui est professeur d'université à Morgantown, il a écrit plusieurs romans. Et celui que nous lisons aujourd'hui, c'est son premier, qui est paru aux États-Unis en 2008, qui a été traduit en France, chez Grasset, en 2010, et qui est ensuite paru en point poche. Je voudrais souligner aussi qu'il est traduit par un de nos grands traducteurs et auteurs lui-même, d'ailleurs, Brice Mathieusson. C'est vraiment un roman à part entière et ça nous fait découvrir encore un autre univers. La semaine dernière, avec Tina Bondotti, nous étions dans l'ouest du continent américain, avec ses influences latines, italiennes et espagnoles, avec ses artistes bohèmes internationaux. On a beaucoup parlé d'artistes comme Frida Kahlo, Diego Rivera, etc. Et ben cette semaine, on est toujours en Amérique, mais avec la Ballade de Gueule Tranchée. C'est une Amérique bien différente. Je vous parlais des collines et des bois, des Appalaches. Je vous parlais aussi des mines de charbon. Ces mines qui ont construit la richesse du grand capital états-unien. Et ces mines qui se sont illustrées par des luttes de mineurs vraiment très violentes. Des luttes, au fond, des exclus de la richesse et des gens du peuple, bien éloignés des grandes capitales artistiques ou intellectuelles du continent nord-américain. Donc, Gueule Tranchée, c'est Trenched Mouth Taggart, en anglais. C'est un personnage de roman, oui, complètement. C'est un personnage de roman qui repose sur une histoire vraie, une histoire un peu mythique, une histoire légendaire du XXe siècle états-unien. En fait, ce héros, il a été à la fois défenseur des mineurs, homme des bois, musicien, écrivain. Il a fini centenaire, il est mort à 108 ans et on dit qu'il a même été conseiller au culte du président Kennedy. Donc oui, on ne sait pas trop ce qui est vrai dans son histoire, mais en tout cas le roman, lui, il a été écrit par Glenn Taylor et Trench Mouth Taggart, gueule tranchée, c'est un véritable personnage de roman. Donc, revenons au roman et revenons en particulier à l'enfance de gueule tranchée. Vous allez voir, ça commence pas vraiment tendrement.
Quand Early Taggart fut baptisé dans les eaux de la Tug River en 1903, il avait 2 mois. La mère d'Early, abandonnée par son époux une semaine plus tôt, avait attrapé la maladie de la religion. Elle trouvait qu'il fallait amener les agneaux dans le giron de l'église avant qu'ils sachent ramper ou s'asseoir tout seuls. Avant que Satan réussisse à instiller les 7 péchés capitaux dans leur petit vaisseau sanguin. C'était à cause de ses péchés que son mari avait décampé. Voilà ce qu'elle expliquait à son poupon de 6 kilos qui tétait son sein. En février, elle décida de le faire baptiser et aucun prêcheur n'accepta de s'en charger. « Faudra casser la glace de la rivière, » argua le méthodiste. « Et puis ce gabin n'est pas en âge qu'on lui mouille la tête. » Ainsi donc, Mitty Ann Taggart s'en chargea elle-même. Elle défonça les 3 centimètres de glace à coups de talons de chaussures, puis saisit son bébé par les cuisses et elle lui plongea la tête sous l'eau comme du linge sale. Il en émergea en braillant. Elle prétendit qu'il lui parla alors, en lui crachant de l'eau sur la joue. « Comme tu voudras, comme tu voudras !» furent ses paroles selon Mitty Ann. Puis il ajouta « Le diable a mis la main sur Dieu. » Elle le laissa tomber. La glace se brisa, le bébé coula et fut emporté par le courant sur 400 mètres. Ensuite, il battit des pieds pour rejoindre la berge où une femme avait fait fondre la glace en lavant un chaudron en fonte. Cette femme, Ona Dorset, saisit le garçonnet et lui souffla dans la bouche. Elle lui asséna force claque dans le dos jusqu'à ce qu'il reprenne des couleurs et que l'eau grise lui sorte par les narines. Elle l'enveloppa bien serré contre sa poitrine, sous un manteau en peau d'ours, puis le ramena chez elle. Le logement était modeste, voire délabré. Un pionnier paysan l'avait construit sans les avantages d'une habitation permanente de colons. C'était un chalet en rondin brut. Les innombrables fissures étaient colmatées et recolmatées avec de l'herbe et de la boue. Le toit était en bardeaux. La cuisinière garantissait un peu de chaleur et la fumée de l'âtre s'évacuait par une cheminée en bois couverte d'argile et de pierres posées à la main. C'est là qu'Early Taggart devait grandir et devenir un homme. Là, avec Ona Dorset, une femme qui savait presque tout faire, apparemment. Une femme qui gagnait sa vie en vendant de l'alcool de contrebande via un intermédiaire qui touchait une petite commission, car on ne prenait pas au sérieux les femmes qui distillaient l'alcool. À sa connaissance, elle était la seule femme bouilleur de cru de tout l'État. En vérité, elle était la seule femme capable de monter comme une cavalière née, le hongre de 17 paumes ayant appartenu à feu son mari. Un jour, qu'Ona Dorset galopait sur les collines inégales, elle descendit dans sa course un ours noir qui l'observait, sans se douter qu'un tel spectacle fût possible. Elle l'avait aligné dans la mire de son fusil Winchester avant d'expédier une balle dans le cœur palpitant d'un animal pesant 150 kilos, tout en montant à cru et en tenant compte des arbres, de la distance, du mouvement du cheval sous son corps. Ensuite, elle écorcha et découpa l'ours, en fit sécher la viande. Avec cette provision et la viande des cerfs, des dindes, de faisans et d'écureuils, elle réussit à nourrir ses 2 enfants adoptés. Elle n'en tirait aucun plaisir particulier, mais elle chassait pour eux et elle était fière de son adresse. Cette femme soignait aussi les maladies. Ona Dorset prit soin des 2 enfants que lui avait donné la chance. Elle les nourrit, les vêtit, soigna toutes leurs maladies sauf une, car le garçon souffrit d'une infection de la bouche si précoce et si violente que la veuve ne put rien pour lui. Une semaine après avoir été repêché de la rivière, maintenant tout à fait remis et bien au chaud dans de lourdes couvertures en coton et une peau de cerf, Early Taggart se mit à crier dans la nuit. Il se débattait sans relâche pour arracher ses lourds habits. La veuve n'y comprit rien avant que la lueur de sa lanterne n'éclaire brièvement les gencives du gamin. Elles étaient rouge sang, tout enflées et percées de trous, telles des fourmilières de chair. Elle fit venir le médecin, un homme qui avait bien connu son mari, un homme qui appréciait beaucoup l'agnole qu'elle distillait. Le docteur Warble déclara que le garçon souffrait d'un excès de calcium, qu'à 2 mois et demi, il avait des dents qui poussaient avec 5 mois d'avance. Mais ce n'était pas tout. Le médecin pensait que les gencives étaient déjà fendues et que ses dents poussaient déjà au moment de la tentative de noyade. Il croyait aussi que les dépôts de charbon présents dans l'eau avaient infecté les orifices des gencives. Cette infection avait évolué en ce qui ressemblait à une maladie de la bouche incurable chez les personnes âgées. Les gencives pourrissaient et saignaient sans discontinuer, ou les dents se cariaient et empestaient. Ce spectacle rappela au docteur Warble, qui seulement 5 ans plus tôt avait été infirmier parmi les Rough Riders à la bataille de St. John Hill, la maladie qu'il avait remarquée chez les soldats espagnols morts et gisant bouche bée dans leurs tranchées. Il était inexplicable qu'un nouveau-né pût souffrir d'une telle maladie, mais c'était pourtant le cas. Le garçon avait la gueule tranchée.
La gueule tranchée, oui, c'est cette expression un peu bizarre pour cette maladie également très bizarre des dents et des gencives que le jeune Taggart va soigner toute sa jeunesse avec l'agnole de sa mère adoptive. Donc, tout bébé, on lui donne de l'agnole et enfant et adolescent, il continue à boire de l'agnole. Et cette maladie, donc gueule tranchée, lui vaut son pseudonyme, si on peut dire. C'est ça qu'on vous explique maintenant. Cette maladie des dents et des gencives qui toucha le bébé relevait de la véritable torture. Il fut bientôt évident pour Anna Dorset que la poudre de perlimpinpin du docteur Warble serait inefficace. Elle prit l'habitude de chanter pour son bébé en se rappelant l'expression qu'avait utilisée le docteur Warble, gueule tranchée, trenched mouth. Elle décida qu'il conserverait ce surnom. Elle prit aussi l'habitude de tremper chaque soir un doigt dans le pichet de gnôle maison, puis de frotter ce doigt contre les gencives et les dents inégales du petit. Les gémissements de douleur de l'enfant se calmaient. Il s'apaisait, il s'endormait. Alors, ce geste devint un rituel. L'alcool clandestin d'Anna Dorset n'était pas une recette ordinaire de la région. Feu M. Dorset avait peaufiné un procédé mis au point avant lui par son père. Anna avait encore amélioré la distillerie et ses possibilités. Elle avait ajouté quelques ingrédients inédits. Le résultat était ce qu'on pourrait qualifier de miraculeux. Les hommes payaient cet alcool, rubis sur l'ongle, tout en ignorant son origine. L'intermédiaire qui le leur vendait avait juré le secret absolu à la veuve Dorset et il avait la ferme intention de ne pas piper mot. Le bruit courait qu'une seule goutte de ce breuvage suffisait à vous faire tourner la tête comme une toupie et bander comme un âne. Cette gnôle ne dégageait aucune odeur. Donc voilà, c'est l'agnole de Anna Dorset, c'est la gueule tranchée de Taggart, et avec sa mère et sa sœur, gueule tranchée grandit. Il apprend bien des choses nécessaires à la survie dans les Appalaches au début du XXe siècle. Il apprend bien des choses, il va au marché avec sa mère et sa sœur, il mène finalement une vie de petit garçon, et puis il a bien sûr un certain nombre d'aventures.
Tous les 3 mois, Anna Dorset emmenait ses enfants au marché, de gros de Williamson, pour y acheter parmi d'autres denrées du lait en poudre, des haricots, des sardines, du sel, de table, des savons, de toilettes. Une fois, elle leur avait offert un morceau de chocolat fantaisie, Munger, car son alcool de contrebande se vendait particulièrement bien durant les mois d'hiver. Juste avant la fête de Thanksgiving 1909, ils partirent tous les trois. À cette époque déjà, certains conduisaient une Ford Model T, mais la veuve et ses 2 enfants firent le trajet dans un chariot bâché tiré par un cheval. Au marché, Clarisse attendait des fruits ou des légumes à sa mère pour qu'elle les mette dans son sac pendant que Gueule Tranchée courait à en perdre haleine au milieu des travées, ses chaussures laissant de grandes traînées à chaque virage un peu sec. Dans un de ces virages, alors qu'il ne regardait pas où il allait, il finit le visage enfoui dans une jambe de pantalon. Assis sur le carrelage du sol, il leva les yeux pour voir qui il venait de percuter ainsi. « Désolé, monsieur, bredouilla-t-il. » L'homme ne répondit pas. Il était grand, mince et bien âgé de moins de 30 ans. Il avait le visage ridé d'un bulldog. Quand il sourit à Gueule Tranchée, il révéla une dentition presque aussi déplorable que celle du garçon, ce qui fut assez réconfortant. « Tu files très vite qu'un train de charbon, pas vrai, fils ? » dit-il. Il sortait d'un sac de sucre des morceaux de bois taillés. Ses bouts de bois étaient munis d'un élastique.
Oui, filer aussi vite qu'un train de charbon, évidemment, c'est la référence dans la région, puisque c'est une région minière. Les transports qui vont vite, ce sont les trains de charbon.
Gueule Tranchée le regarda disposer ses marchandises sur l'étagère du magasin, l'une après l'autre, bien alignées. « Des frondes ?» lui dit l'homme. Il considéra un moment celle qu'il tenait en main, réfléchit, puis l'attendit au garçon qui venait de se relever. « Va dégommer Goliath sur les fesses » ajouta-t-il. Gueule Tranchée avait envie de prendre cette arme, mais il ne le fit pas avant que l'homme n'ait saisi la main du garçon pour y poser l'objet. Puis l'homme, qui s'appelait Franck Dallara, finit d'installer ses frondes sur l'étagère. « La plupart des garçons me les achètent 10 cents, pièce. Tu viens de faire une affaire. » Merci, monsieur, dit Gueule Tranchée. Franck Dallara remarqua la bouche crispée, les lèvres qui en dissimulaient l'intérieur. Puis il regarda le garçon droit dans les yeux et dit : Je suis prêt à parier mon dernier dollar que d'ici une semaine tu seras un vrai champion de la fronde. Je vois ça en toi.
Voilà, donc ça c'est la première arme. Franck, c'est le premier ami de Gueule Tranchée, et donc la fronde, sa première arme. Son talent de frondeur repose sur une vision perçante qui lui restera bien utile toute sa vie et pour manipuler d'autres armes. Par ailleurs, en famille, il apprend à lire et il lit très régulièrement.
Ce troisième talent se révéla chez lui aussi naturel que son habileté à grimper et à creuser, activité qu'il pratiquait tous les jours. Les prédictions de Franck Dallara se réalisèrent. Gueule Tranchée pouvait abattre une corneille perchée sur une branche d'érable à sucre à 30 mètres en se servant uniquement de ses yeux et de ce petit propulseur de fusée en bois qu'il avait reçu en cadeau au marché. Franck Dallara emmenait le garçon s'entraîner le week-end. Les hommes d'autrefois ne pouvaient pas emporter partout un arc et des flèches ou une lance, dit-il. Ils avaient besoin d'une arme poids-plume. La précision fut enseignée par la répétition. David protégeait ses moutons avec le même bidule que tu tiens en main, sauf que M. Goodyear nous a fait don du caoutchouc vulcanisé, aimait déclarer Franck Dallara. Et puis, ce bon vieux David a aussi tué un géant avec. On trouvait des pierres partout et de toutes tailles. Tous lisaient le journal. La veuve avait fait en sorte que ses deux petits sachent lire à l'âge de 6 ans. Tous les jeudis, un certain Orb leur apportait le Williamson Daily News. À 74 ans, il aimait gravir les montagnes et descendre au fond des vallons, mais seulement s'il avait une destination, une pièce de 10 cents qu'il attendait en échange de sa livraison. Gueule Tranchée, ayant encore besoin de s'entraîner à la lecture, il déchiffra les syllabes à voix haute, tandis que les deux autres épluchaient les haricots. « 8 morts !» récita Gueule Tranchée. « Thacker, 8 mineurs ont trouvé la mort. 2 Américains et 6 Italiens, suite au déraillement d'un wagon de mine dans le gisement de Lick Fork, exploité par la Red Jacket Coal Company. » Ce déraillement avait démoli des soutènements et provoqué l'effondrement de tonnes d'ardoises sur les mineurs. Le journaliste terminait son article en donnant le nom du propriétaire de la mine et en déplorant l'état désormais très endommagé de l'exploitation. Clarissa se leva, en tenant sa robe lestée de cosses de haricots entre ses doigts comme un sac. Elle marcha ainsi avec précaution jusqu'au seau qui servait de poubelle et les y jeta. Gueule tranchée lut l'article suivant. Rupture de câble, Bluefield. Huit hommes ont été tués et deux grièvement blessés dans la galerie en pente d'une mine proche d'ici. Ces hommes, il venait de rencontrer un mot qu'il ne parvint d'abord pas à prononcer, mais c'était un garçon déterminé. Gravissaient la pente dans un wagon de charbon quand le câble s'est rompu, laissant les wagons de charbon redescendre à toute vitesse et percuter les 10 hommes. 8 des victimes ont été enfouies sous des tonnes de charbon et tuées sur le coup. 8 morts à chaque fois, dans 2 accidents séparés. Ça paraît incroyable, dit Clarissa. La veuve ne quitta pas ses haricots des yeux. Ne cherche pas une explication là où il n'y en a pas, Clarissa. Tous ces malheurs n'ont pas de sens caché. Commerce illégal d'alcool, poursuivit Gueule tranchée. Sa mère leva les yeux et le regarda. Huntington, Madame Caroline Carpenter, 50 ans, originaire de Burdette, comté de Putnam, réputée être la seule femme bouilleur de cru de toute la Virginie occidentale, a été arrêtée et placée en détention en attendant la décision du jury fédéral. Selon les fonctionnaires de la police, Madame Carpenter avait chez elle un alambic qui était le seul de tout le district du comté de Putnam. Au cours des derniers mois, elle a engrangé de substantiels bénéfices en vendant l'alcool qu'elle distillait clandestinement. La veuve se leva et alla jeter ses épluchures de haricots. Elle s'essuya les mains. « À mon avis, dit-elle, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de montrer qu'elles ont de l'argent. Il faut que nous soyons plus prudents que jamais, les enfants. Faut qu'ils continuent de croire qu'il y avait une seule femme qui distillait en douce dans tout l'État. » Elle leur ordonna de la regarder et ils obéirent. Le moment est venu de le planquer à nouveau dans la pierre tombale. Elle parlait de stèle à whisky, car elle cachait sa gnôle dans une stèle creuse du cimetière de l'église méthodiste où le revendeur venait la récupérer.
Oui.
Une fois sur place, ils se mirent au travail. Il n'y avait pas de temps pour les larmes. Il fallait faire le guet à cause de la police ou des gens rendant visite à leur mort. Il fallait trouver la pierre tombale d'1,20 m portant le nom de Mary Blood, creuser un peu au-dessous et déterrer le châssis métallique creux qui attendait la livraison. C'était la paranoïa qui les poussait, le meilleur antidote au chagrin.
Oui, le meilleur antidote au chagrin, le meilleur antidote à la misère aussi, puisque c'est cette gnôle de contrebande qui fait vivre la famille. Ona est travailleuse, bien sûr, elle épargne, bien sûr, comme tous les pauvres de l'époque. Et c'est quand même le fait de vendre cette gnôle qui permet à toute la famille de survivre. Mais Gueule tranchée, comme Clarissa d'ailleurs, doivent maintenant apprendre d'autres choses comme par exemple les secrets de leur naissance. Qui était leur mère biologique ? Ona Dorset, au bout d'un certain temps, décide d'envoyer les 2 jeunes rencontrer leur mère biologique dans la capitale du comté. En effet, la mère de Clarissa est, disons, une séductrice, une femme entretenue. Et elle a bien réussi dans ce domaine puisqu'elle a un appartement et qu'elle vide ses charmes à domicile. La mère de Gueule tranchée, on le sait, est par contre une pauvre folle qui a été admise dans un hospice, dont on dirait un asile. Et à l'époque, bien sûr, ce sont des établissements assez effrayants. Donc Clarissa d'un côté, Gueule tranchée de l'autre, vont découvrir la vérité sur leur mère après avoir pris le train pour la ville centrale du comté. Et en fait, ils vont avoir la révélation du rejet que leur mère, chacune de leur côté, a fait d'eux. Donc, c'est un peu cette révélation de l'enfance ou de la jeune adolescence qui va les faire grandir C'est aussi ce qui va les attacher davantage à Ona Dorset, et c'est ce qui va également les lier tous les deux entre eux. Ils deviennent vraiment un frère et une sœur après avoir appris en fait que leur mère, chacune d'entre elles, ne voulait pas d'eux. Ils avaient appris ce que la veuve avait deviné qu'ils apprendraient, ce qu'une partie d'elle-même désirait qu'ils découvrent. Il y a des mères en ce monde qui, pour des raisons liées à leur expérience ou à une certaine incapacité, ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et ces enfants ont besoin de s'en rendre compte par eux-mêmes avant de pouvoir vivre réellement. Clarissa et Gueultranché venaient de le comprendre. Ils se tenaient la main dans le wagon vide du train de nuit qui les ramenait chez eux. Les passagers de Cincinnati et de Columbus dormaient dans leurs couchettes, mais le frère et la sœur qu'aucun sang ne reliait restaient éveillés. La fille, parce que ses pensées battaient la campagne, le garçon, parce qu'il n'avait pas eu sa dose de gnôle. Elle ne remarqua pas son haleine fétide quand il lui parla de la femme entravée qu'il avait découverte sur son lit d'hôpital. Elle était habituée à l'odeur. Et il huma le souffle de sa sœur lorsqu'elle lui parla de l'actrice vulgaire entretenue par des partenaires toujours différents. En fait, s'ils avaient voulu, ils se seraient écoutés pendant des heures. Voilà, donc Clarissa et Gueultranché ont la révélation de leur naissance. Et puis d'autres épreuves arrivent. D'autres épreuves du village où ils habitent, puisqu'ils sont un petit peu marginaux de ce village. D'autres épreuves qui sont liées aussi à la mort de Frank Dallara, qu'on va voir maintenant, et qui sont liées également à la scolarisation, qui n'est pas franchement un succès. Mais d'abord, ce que devient Frank Dallara.
Ceux qui parlaient affirmaient qu'Anne avait dit à Frank qu'une fillette était à l'intérieur de la construction en flammes, qu'il avait menti pour faire mourir le charpentier dans l'incendie. Gueultranché remâcha cette information durant l'enterrement. Ses épaules qui s'élargissaient faisaient presque éclater les coutures de la chemise confectionnée par la veuve la veille au soir. Quand le cercueil de Frank Dallara toucha le fond de la tombe et que les hommes de peine retirèrent leurs cordes, le garçon faillit voir s'envoler le peu de sang-froid qui lui restait. Le prêcheur continua de prêcher. « J'ai dit dans ma hâte que tous les hommes sont des menteurs. » Alors le garçon comprit que Dieu était fait pour les imbéciles, que la religion était une affaire de représentants de commerce. L'homme de Dieu lui-même l'avait dit, des menteurs. Gueultranché tourna les talons et s'éloigna de la petite foule. Mal à l'aise dans leurs vêtements de deuil, les gens écoutaient ces mots, ces morts, mes yeux de larmes. Les gens écoutaient ces mots d'une oreille distraite. « Sauvez mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Mais Gueultranché les chassa de son esprit, il sifflotant en s'éloignant à grands pas. Cette attitude choqua particulièrement un endeuillé, Hob Tapes, l'horrible beau-frère de Frank Dallara, qui la jugea affreusement irrespectueuse. Il suivit le garçon à l'écart du cercle funèbre. Il le tira par le bras derrière un gros arbre, puis il le frappa. « Ne te montre pas irrespectueux envers les morts, » dit-il. Il le frappa encore. « Et surtout, ne te montre pas irrespectueux envers le Seigneur. Tu m'entends ?» Les gens réagissent à l'effroi de diverses manières. Curieusement, ce gamin de 9 ans le savait, et cette intuition l'empêcha de frapper à son tour cet homme. Cet homme hideux. Mais Hob Tapes venait de se faire un nouvel ennemi qui s'ajouta à une liste déjà longue, et quelque chose dans son faciès se grava de manière indélébile dans le cerveau de Gueultranché. Tapes ajouta, « Tu vas aller à l'église tous les dimanches, tu m'entends ? Je vais te faire bosser pour Dieu. Avec ta salive, tu vas astiquer une croix, si je te le demande. Tu vas nettoyer les vitraux, espèce de sale gosse, qui ose se détourner d'un enterrement. » Gueultranché dit ce qu'il avait dit toute sa vie. « Oui, monsieur. »
Gueultranché dit « Oui, monsieur », mais en fait, il range dans sa mémoire le nom et la personne de Hob Tapes comme il range dans sa mémoire celle de Hans Pilcher, le propriétaire de l'hôtel où a eu lieu l'incendie, où est mort Frank Dellara. Donc en fait, Goldtranchet commence à construire autour de son village ou autour de sa maison un univers dans lequel il y a les bons et les méchants. Et les méchants, c'est par exemple ceux qui l'obligent à aller à l'église, qui l'obligent à travailler sans le payer, qui l'obligent à se détourner des tâches qu'il fait avec plaisir pour sa mère ou sa sœur. Alors en fait, l'église et l'école, c'est bien des endroits qui n'intéressent guère un garçon de 10 ans habituellement, mais ce sont aussi des endroits que Goldtranchet va se mettre à détester. En fait, il a très vite détesté l'écriture. Il n'avait pas envie d'apprendre ses leçons. Il en était pourtant parfaitement capable. C'était l'existence de ceux qui cherchaient à le ridiculiser à cause de sa maladie, ou à l'isoler, ou à le harceler, qui lui rendait l'école insupportable. De la même façon, c'était Hop Tibbs qui lui rendait l'église insupportable. Alors que se passe-t-il ensuite? Bah oui, notre garçon, notre Goldtranchet, il grandit et il va rapidement s'affirmer. Toutefois, à l'école, il rencontre une autre fille, une fille qui l'intéresse pour bien des raisons.
À l'automne 1913, une nouvelle fille vient s'asseoir à côté de Goldtranchet dans cette salle de classe, et elle seule eut l'énergie d'affronter la fixité de ce regard. Elle eut même l'énergie de le faire penser à autre chose que Clarissa, qu'il ignorait depuis le fameux baiser dans le train. Elle s'appelait Heward Smith. Elle venait du Tennessee avec son père, qui avait trouvé du travail à la mine. Heward était bronzé, plus bronzé même que Goldtranchet, qui après un été consacré à grimper et à creuser torse nu, avait la peau plus sombre que les gamins de cette école qui appliquait la ségrégation. Mais Heward avait des cheveux blonds et des yeux verts, et puis des dents aussi blanches que la craie de Mademoiselle Varney. Au début de son premier jour d'école, quand on la présenta, son nom fut salué par un tonnerre de rires et de cris étonnés. Elle réagit en croisant les pieds pour faire la révérence, une main en travers des hanches, l'autre écartée du corps. Il y avait plusieurs places libres dans la classe, mais elle choisit de s'asseoir à côté de Goldtranchet Taggart. J'étais qui pue. C'était vraiment une idée très simple. L'acier à la place du bois.
Alors ça, c'est les nouvelles activités de Goldtranchet. En fait, sa nouvelle amie d'école, Heward, a un genre de planque dans la cave de sa maison, et il se met à bricoler dans la cave de Heward. Écoutons.
Voilà comment fonctionnait le cerveau de Goldtranchet. Ce gamin gravissait tous les jours le mont Sulphur Creek pour rejoindre sa planque secrète, une espèce de bunker souterrain d'une seule pièce, équipé d'une table à dessin bricolée, avec règles, compas d'architecte et crayons volés à l'école. Là, il dessinait des plans, des inventions. Là, il concevait des villes d'acier, des ponts suspendus, des chevalements de mines. Il n'avait jamais laissé personne y pénétrer avant de connaître Heward Smith. Elle seule connaissait l'emplacement de cette planque et elle avait juré de garder le secret. Avec les bouts de métal qu'il avait ramassés parmi les déchets de la mine, il bricolait un chevalement et une grue miniature. En se servant d'un marteau et d'un poinçon, il avait très habilement percé des trous dans les minces feuilles métalliques, des fentes pour assembler et construire. Heward considéra avec étonnement ce qui allait certainement devenir une ville minuscule là, sur cette table.
Oui, c'est assez génial de se rendre compte qu'en effet, cet enfant, puisqu'il a une douzaine d'années à l'époque, est un genre d'ingénieur en herbe qu'il visualise tous les fonctionnements techniques des mines autour de lui et qu'il arrive à les reproduire. De façon assez drôle, un peu plus loin dans le roman, il aura la révélation du système mécano. Il verra dans une boutique que quelqu'un finalement a inventé la même chose que lui et a vendu en de multiples exemplaires ce nouveau jeu mécano qui vient en effet des États-Unis et qui a permis à des générations de gamins de bricoler à petite échelle dans leur salon ou dans leur chambre. En attendant, avec Ewart, Gueule Tranchée va connaître d'autres aventures. Et en particulier, il va rencontrer les serpents du père de Ewart.
On aurait pu appeler ça une boîte, une cage en bois. Des vipères cuivrées et des serpents à sonnette se bousculaient à l'intérieur, leurs flancs sombres et translucides se cognant contre les interstices. « Qui a fabriqué cette boîte ?» lui demanda Gueule Tranchée. « Papa. » Ils étaient dans une petite pièce située derrière la ferme d'Ewart. Elle l'avait finalement emmenée voir où elle habitait. Les murs, à demi couverts de papier peint, étaient maculés de taches, comme si on avait abandonné l'endroit en plein milieu du chantier. De l'étage descendaient les bruits du monde adulte. Au-dessus des deux enfants, on déplaçait des meubles en raclant le plancher. On entendait les voix basses et incompréhensibles d'un homme et d'une femme. « Il est là-haut en train de prêcher à une nouvelle recrue, » dit Ewart. « Il l'a convertie. » Elle se pencha, puis approcha les doigts d'un des petits trous arrondis. Les serpents étaient calmes. « Tu en as déjà pris un ?» Gueule Tranchée n'avait pas cessé de regarder cette boîte. On aurait pu en améliorer la construction. « Non, » répondit-elle, « les serpents ne m'intéressent pas. » Alors, il se pencha tout près d'elle et il retrouva l'émotion qu'il avait connue dans le train cette nuit-là avec Clarissa. Son genou toucha celui d'Ewart et à travers les épaisses couches de laine, les deux peaux parurent s'échauffer. Gueule Tranchée tendit la main afin de la toucher, mais pour une raison inconnue, sa main changea de destination. Du pouce et de l'index, il ouvrit le petit loquet de cuivre et fit basculer le couvercle. Puis il plongea la main dans le monticule qui s'agitait doucement et en ressortit une vipère cuivrée, enroulée autour de son poignet. Ce serpent était peut-être endormi, mais Ewart bondit et s'adossa au mur opposé. Un lait de papier peint s'effondra derrière elle. Le serpent remonta lentement et méthodiquement le long du bras de Gueule Tranchée. S'il avait décidé de mordre le garçon, il allait avoir du mal à le faire à travers le veston, la chemise et les sous-vêtements, mais il ne manifesta aucune agressivité. Gueule Tranchée examina la tête minuscule, sa forme géométrique, chaque rangée d'écailles parfaite. Il le scruta et le serpent lui rendit son regard, jusqu'à ce que ce regard se brouille entre eux, jusqu'à ce que le reptile eût remonté le long du bras, du biceps, de l'épaule, de la clavicule. Il s'arrêta. Il savait qu'Ewart ne le quittait pas des yeux. Il savait qu'il ne lui avait jamais montré son mal, mais le garçon ouvrit grand la bouche, car cela semblait la seule chose à faire à cet instant précis. Et comme si c'était là un numéro qu'ils avaient déjà exécuté ensemble lors d'innombrables foires de comté devant une foule de gamins aux yeux écarquillés, la vipère cuivrée se glissa sans la moindre hésitation entre les lèvres ouvertes comme si elle venait de trouver là son nid. Puis elle posa la tête sur la langue du garçon. Ewart avait porté les mains à sa propre bouche, à la fois pour contenir un cri et garder un danger à distance. Elle se mit à respirer pesamment, sans même s'en rendre compte. Son souffle ralentit encore quand elle vit son ami refermer lentement ses gencives perforées et ses lèvres gercées autour du serpent. Le garçon ne le mordit pas. Il se conta de l'englober peu à peu si bien qu'elle eut l'impression qu'il avalait la créature. Il garda la pose, les yeux rivés à ceux d'Ewart, puis il ouvrit de nouveau la bouche avec la même lenteur et la même décision qu'il avait mise à la fermer. Il tira doucement sur la queue de la vipère cuivrée pour l'inciter à bouger, et la fille regarda le reptile tourner la tête vers elle, adopter la forme d'un sucre d'orge incurvé, avant de se remettre à glisser le long du bras. Puis le serpent se figea.
Voilà, donc notre Gueule Tranchée qui sait lire, qui sait tuer des animaux à la fronde, qui sait vivre dans les bois, il a maintenant la révélation d'une autre science, c'est au fond la domination, entre guillemets, d'animaux sauvages, et en tout cas la domestication de certains, comme ici les serpents. On va, en attendant la suite de ces aventures, écouter un peu de musique. Et comme on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mine, on en a déjà, enfin dans un pays minier du moins, on en a eu la révélation avec par exemple les deux accidents dont Gueule Tranchée a fait mention. Donc comme on est dans un pays minier, on va chanter avec Hazel Dickens une chanson de lutte, They'll Never Keep Us Down, ils ne nous garderont pas dominés.
So working people, use your power, the key to liberty. Don't support that rich man style of luxury. And there ain't no way that can ever keep us down. Oh no, ain't no way that can ever keep us down. We won't be bought, we won't be sold, to be treated right, well that's our goal. And there ain't no way that can ever keep us down. Union contract that keeps the worker free, and I'll never shoot that union out of me.
They'll never shoot that union out of me. Oh no, never shoot that union out of me.
Got a contract in our hand signed by the blood of honest men,
and they'll never shoot that union out of me.
Waouh, c'est chouette, hein, la musique, la chanson de Joel et la musique de Hazel Dickens. Une vraie musique country, une vraie musique de lutte en même temps. Et c'est vrai que ça soutient le moral de ceux qui se battent, ça soutient le moral de ceux qui travaillent. Et ça permet peut-être les jours de fête, enfin les jours où on boit un peu, de penser à autre chose qu'au travail aliénant à la mine et au travail dangereux et mortel, on l'a vu tout à l'heure. Alors en fait, Gueule Tranchée connaît dans la vie et dans le roman bien d'autres aventures, un peu comme sa mère adoptive, Anna Dorset. Il se fait connaître à l'âge de 13-14 ans, par 14 ans très précisément, par le fait qu'il chasse un ours lui aussi. La presse dit « Un garçon de la région et sa tutrice décroche le trophée ». En effet, il y a chaque année un genre de chasse à l'ours de compétition, et ce sont Gueule Tranchée et Anna qui tue le plus gros ours, un ours noir qui pesait 230 kilos et mesurait plus d'1,50 m. Ça constituait les records locaux. Ils ont été photographiés. En fait, la dépouille de l'ours, bien sûr, entre eux. Et lorsque un certain nombre de journalistes de Washington ont vu ces photos, ils sont venus interviewer les auteurs donc, de la chasse, c'est-à-dire Gueule Tranchée et sa mère adoptive. C'est absolument fou de voir d'ailleurs le retentissement qu'avaient les chasses à l'ours dans les États-Unis de cette époque. Il y a même des scientifiques eugénistes qui se sont déplacés de Washington pour venir mesurer gueule tranchée, sa tête, ses bras, etc., pour essayer de construire une théorie sur le chasseur idéal. Donc voilà, gueule tranchée est un chasseur d'ours remarquable, un genre de chasseur idéal, et les eugénistes veulent comprendre comment il a pu arriver à tuer cette bête. En fait, il l'a tué parce que, de même qu'on a vu tout à l'heure qu'il était très doué à la fronde, eh bien, entre 12 et 14 ans, il est devenu très doué avec la Winchester. Et il arrive, comme sa mère dans le passé, à abattre des animaux pratiquement sans coup férir. Donc, quand il s'agit d'un grand ours noir, eh bien, de la même façon, il abat l'ours. Donc voilà, il acquiert une certaine notoriété dans sa ville, dans sa contrée et jusqu'à la capitale grâce à ses exploits de chasseur. Et puis il va acquérir une notoriété dont il se serait peut-être passé à d'autres époques. C'est que pendant les grèves, pendant les luttes des mineurs, il va soutenir le combat des mineurs et il va également poursuivre un certain nombre de jaunes, comme on dit à l'époque, un certain nombre d'ouvriers donc enrôlés par des briseurs de grève, des compagnies briseuses de grève. On va voir un petit peu ces nouvelles aventures.
Les camions de charbon grondaient partout, lançaient à pleine vitesse dans les rues tortueuses dont ils défonçaient la chaussée comme des rivières recouvertes de glace, et là encore, aucun dédommagement ne fut versé par l'entreprise minière. Au nord de Matewan, à Kermit, la compagnie charbonnière Grey Eagle décréta unilatéralement que les routes publiques étaient désormais privées, et pour protéger son nouveau bien, elle les fit garder par de sinistres sbires armés de fusils. Les mineurs parlaient entre eux de tous ces méfaits, tous ces actes illégaux subis en silence et métamorphosés en une rage terrible. Cette rage était si puissante qu'elle transforma en improbables camarades des hommes sinon séparés les uns des autres et supposés inégaux. Des blancs et des noirs, qui normalement ne mettaient jamais les pieds chez les membres de l'autre race. Tôt le matin et tard la nuit, des hommes comme Harley Scott Senior et Bill Blizzard discutaient de la situation devant une tasse de café et parfois un verre de whisky. Et de plus en plus souvent, ils l'évoquaient devant leur épouse et leurs enfants. Ils avaient davantage le temps pour le faire car ils s'étaient fait virer sans préavis pour avoir arboré les insignes du syndicat District 17 durant une tournée de mobilisation générale qui avait traversé les collines en une vague salvatrice. Voilà comment Gueule Tranchée a appris de première main que le syndicat, comme celui des chemins de fer avant lui, était monté en puissance. Et avec lui arriva le jour où il devait le rendre célèbre.
Oui, donc Gueule Tranchée soutient les combats des mineurs. Il soutient surtout ses amis qui sont mineurs. Ces types de la Baldwin Fells commencent à péter plus haut que leur cul, ajouta Blizzard un jour, avant de poser si violemment son verre sur la table qu'il faillit voler en éclats. Les hommes de la Baldwin Fells étaient des flics embauchés par les opérateurs miniers qui leur accordaient à peu près le statut de truands salariés et en faisaient le bras armé des contremaîtres. Ils encadraient tous les caprices de la compagnie et comme toutes les compagnies charbonnières, ils se moquaient éperdument que 400 hommes aient trouvé la mort l'an passé au fond de ces trous, victimes malheureuses des coups de grisou et des effondrements. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est empêcher les trains de briseurs de grève d'atteindre la ville, dit Harley Senior. Les opérateurs miniers avaient pris l'habitude de faire venir des hordes d'ouvriers pour travailler à la place de ceux qui ne le voulaient plus ou ne le pouvaient plus. Et là, la grève durait. La semaine précédente, le petit Harley et Gueule Tranchée avaient lancé des pierres sur un tel convoi. Et histoire de s'amuser un peu, Gueule Tranchée avait même visé un jaune avec sa Winchester vide, l'index éloigné de la détente. Ce jour-là, en marchant vers les hommes rassemblés dans la cuisine, alors qu'il venait de se faire frapper au visage et qu'il affichait un air renfrogné de bandit, Gueule Tranchée choisit d'en parler. « La semaine dernière, j'avais un de ces briseurs de grève dans ma ligne de mire, » dit-il. « J'allais pas le buter, bien sûr, mais si je l'avais voulu, ça ne m'aurait posé aucun problème. » Tous les hommes présents devinrent silencieux et ils secouèrent la tête, ainsi qu'ils le faisaient souvent quand cet étrange garçon blanc parlait. Mais tout le monde connaissait les talents de tireur d'élite de Gueule Tranchée, et un mineur maigrichon dit alors « C'est pas une mauvaise idée pour la suite. Tirer, pas pour tuer, mais pour blesser. Pour rendre inutiles tous ces gens dans les convois. » Les hommes réunis eurent l'air sidérés. Le mineur maigrichon s'expliqua. « Bon, pas les jaunes, évidemment, mais par contre, les truands qui, la semaine dernière, ont encore frappé le petit Jerry à coups de crosse de pistolet. Ces salauds pourraient bien se retrouver avec chacun une balle dans la jambe. »
Le garçon qui avait jadis fabriqué de minuscules chevalements de mine avec des bouts de métal se retrouva bientôt à en faire tomber de gigantesques avec de la dynamite. Les deux Harley, lui-même et les autres, posaient des explosifs la nuit et le lendemain, à l'endroit où l'on chargeait donc le charbon, il n'y avait plus rien qu'un grand trou noir. Ils dynamitèrent le chevalement de Red Jacket ainsi que celui de Tomahawks. Quand les opérateurs rouvraient une mine, les jeunes qui l'embauchaient se faisaient chasser à coups de fusil. Il s'agissait simplement d'une tactique dissuasive, jamais plus, jusqu'au jour où quelqu'un riposta. Gueule Tranchée effectuait une mission contre les briseurs de grève dans le comté de McDowell, en compagnie d'Harley J.R. et d'un jeune mineur nommé Kemp. Ce dernier était là uniquement parce qu'il avait hérité d'une automobile et assurait donc le transport. Allongé à plat ventre derrière un érable abattu, il mangeait des sandwichs au saucisson. Le lendemain, venu, ils tirèrent des coups de feu en l'air, dont les échos firent détaler les briseurs de grève qui marchaient lentement à la queue leu-leu. Ils mitraillèrent l'entrée de la mine en faisant bien attention de ne blesser personne. Mais ce jour-là, les propriétaires de la mine avaient envoyé quelques gars de la Baldwin Felts qui localisèrent l'origine de ces détonations et pointèrent leurs armes de faible calibre pour retourner les coups de feu qu'ils recevaient.
Voilà, c'est comme ça que la guerre des mineurs commence. On a vraiment parlé dans les Appalaches, ces années-là, de la guerre des mineurs. En effet, on tire des deux côtés, on tue des deux côtés. Et finalement, c'est en effet à nouveau Gueule Tranchée qui va devenir un héros. En mai 1920, il avait déjà tiré sur bien des gardes de mine pour les blesser. Et peu à peu, le combat s'était vraiment durci. Même Mother Jones, vous savez, Mother Jones, on en a parlé avec Emma. Même Mother Jones s'était déplacée, donc cette syndicaliste bien connue dans les grandes villes, s'était déplacée pour soutenir le combat des mineurs. Et finalement, c'est des régiments de mineurs qui se mettent en place que Gueule Tranchée organise pour faire tirer, en effet, sur les trains de jaunes déplacés pour combattre la grève. Donc, cette grande guerre des mineurs de 1920 dans les Appalaches, on peut dire, en effet, que Gueule Tranchée en est un des animateurs, puisque c'est celui qui sait tirer. C'est celui qui sait organiser les mineurs et à un moment donné, il tue vraisemblablement, on ne sait pas si c'est lui ou un de ses voisins tireurs, il tue Al Feltz, le responsable des régiments de jaunes anti-grévistes. Et peu à peu, il devient célèbre pour cette lutte contre les jaunes, contre les régiments de truands patentés, comme on disait, payés par Baldwin Felts pour lutter contre les grévistes mineurs, enfin les mineurs grévistes. Voilà, on va vous laisser sur ces aventures de guerre des mineurs. Il y aurait bien d'autres choses à raconter sur la vie de Gueule Tranchée. Comme il est poursuivi pour ses activités qu'on appellerait maintenant terroristes, comme il est poursuivi, il va se cacher dans les bois. Il va vivre pendant 20 ans en véritable homme des bois, caché dans les Appalaches. Et puis un jour, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il redescend vers la civilisation. Il devient musicien, il devient écrivain, il est presque correspondant régulier de certains journalistes de Washington. Il continue à faire, au fond, le journal des Appalaches, le journal des militants, le journal de ceux qui luttent. Et on raconte même qu'il est devenu le conseiller occulte du président Kennedy, qu'il a fait bien rire à propos d'une blague bizarre, comme Gueule Tranchée d'ailleurs, comme son physique, puisque Gueule Tranchée à un moment donné se fait réparer les dents et à la place d'avoir des gencives sanglantes, il a des gencives dorées. Donc il devient peu à peu Gueule Tranchée dorée, et Gueule Tranchée dorée en effet finira sa vie de nouveau caché dans les bois. C'est là que viendront l'interviewer tous les journalistes de la côte est américaine. Il devient un personnage dont finalement la légende est peut-être plus grande que la vérité, mais en tout cas, il devient un personnage de roman. Et c'est comme ça que Glenn Taylor ensuite écrit, lui, un vrai roman qui s'appelle « La balade de Gueule Tranchée ». Alors, on va vous laisser sur la balade de Gueule Tranchée. On va vous laisser pour un long moment, puisque je ne serai pas là pendant cette semaine. Je vais aller voir les cimes de l'Himalaya, pendant que vous, sans doute, vous vous baignerez dans la Méditerranée. Donc, vous aurez des rediffusions de nos lectures préférées de l'année écoulée. Et on va, pour vous quitter quand même, vous quitter avec une autre chanson de Joe Hill, donc chanson de Joe Hill et de Matt Paulson, « Should I ever be a soldier ?» Un soldat contre le capital, bien sûr. Le combat continue.
The red flag, I will fight. Should a gun I ever shoulder, it's to crush the boss's mind.
Join Progressive Labor Party, men and women fall in line.
Wage slaves of the world unite, do your duty for the cause of workers' liberty.
They're spending billions every year for guns and ammunition.
Their army and their navy dear, to keep in good condition.
While millions live in misery and millions die before us,
don't sing my country 'tis of thee.
Just sing this little chorus.
Should I ever be a soldier, the red flag I will fight.
Should a gun I ever shoulder, it's to crush the boss's mind.
Join Progressive Labor Party, men and women fall in line.
Wage slaves of the world unite, do your duty for the cause of workers' liberty.
They killed a million Vietnamese to keep their profits flowing.
They tell us they're omnipotent, that their system will keep growing.
They'll soon send troops to Africa to help defend apartheid.
We'll turn their fascist guns around and make this one their last ride.
Should I ever be a soldier?